être présent sur son quartier, écouter, comprendre son environnement. Savoir laisser la place au faire, à la pratique d'actes simples, générateurs de liens sociaux directs. Ne pas rester trop longtemps dans l'analyse contemplative et sortir de chez soi.
Entrez, venez.
Le Grand Mirail à Toulouse est un quartier où l'absence criante des pouvoirs publics offre un vide où peuvent se nicher des initiatives.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.
Rencontre avec trois acteurs du fer du Grand Mirail.
Miloud est slameur et jardinier. Il habite à Tabar, petite cité enclavée dans l'ensemble du Grand Mirail à Toulouse. Il met à contribution ses compétences d'écriture et de jardinage afin de mettre un peu de poésie dans les endroits abandonnés de son quartier.
Eh bien, je peux te faire un poème, là, si tu veux, qui image un peu le truc. J'ai appelé macro-cité. Carré au carré de mètres cubes coulés. Rectangle fenêtre tous les 2 mètres fois 4 étages sur 800 mètres par 200 de pâté de béton figé. Une porte électromagnétique par bloc de 10 portes blindées. Vue barrée pour les fenêtres en rez-de-chaussée. Compilation de complications. Chômage centralisé. Ruche d'abeilles sans miel. Piège populaire. Carré au carré de mètres cubes coulés. Dédié aux générations futures. Passé et présente. Spéciale dédicace à toutes les abeilles du 31 SANS Toulouse. Ça c'est là, j'habite là, depuis tout le temps. Et j'ai vu évoluer tout ce qui est autour. En fait, Toulouse m'a vu grandir et j'ai vu Toulouse s'agrandir.
Cette dalle qui forme le lien entre les diverses activités de la cité va être placée au milieu de la nature. Rien n'y sera détruit. Les châteaux resteront, comme les bois ou la petite rivière. La dalle supportant les bâtiments ouverts sur la nature fera s'avancer la ville nouvelle dans la verdure. Il n'y aura pas besoin de créer après coup des espaces verts. Ils sont déjà là et les architectes veulent les utiliser comme matériaux de la future cité.
Mais il y a un fort cloisonnement, une enclave. C'est comme une cité enclavée, quoi. C'est vachement éclat. Parce que d'un côté, t'as la rocade, avec le mur. De l'autre côté, t'as les tours de Sales, la cité un peu résidentielle avec un grillage des bars, quoi, qui monte à 2,50 m. Et dedans, du Piracanta. Et au printemps, tu vois les grosses branches pleines d'épines et tout. C'est vraiment le mur, la coupure, quoi. Il n'y a pas de possibilité d'interaction avec la cité. C'est vraiment, on est enclavé. Et à la sortie, et en plus, ce qui renforce cette sensation d'enclavement, c'est qu'il y a deux entrées. Celle par où vous êtes arrivé, là, par la route de Seyss, près du pont. Donc c'est très étroit, on ne peut passer que par une voiture. Il y en a une autre à l'autre extrémité de la cité. C'est le chemin de Papus. Là, on peut se croiser à deux voitures. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a qu'une sortie. C'est-à-dire, tu ne peux pas ressortir en voiture par là où vous êtes rentré. Donc si tu rentres d'un côté ou de l'autre, tu ressors toujours du même côté. C'est comme un entonnoir, c'est fermé. Moi, je prends tout le temps le sens interdit qu'il y a là-bas. Parce que j'habite là, au lieu de sortir tout le tour, faire ça, je viens là et je prends le sens interdit. Il y a 50 mètres, tu vois tout, il n'y a pas de... Et puis tu peux t'arrêter, regarder s'il y a quelqu'un ou pas et tu passes. Et ils auraient pu mettre, c'est un truc à flèche, sens prioritaire. Comme ça se fait dans des endroits où c'est un peu étroit. Ils mettent là où on peut quand même. C'est pas obligé de mettre un sens interdit. Donc, moi, c'est ma façon de lutter contre l'enfermement. Je prends le sens interdit, je fais un jardin devant ma terrasse. Voilà.
Ouais, ben là, on est dans la partie un peu abandonnée de la cité, quoi. C'est une fin de zone, quoi. C'est là où on brûle les voitures. Enfin, où on brûle. Le « on », ça veut dire où il se brûle des voitures. D'ailleurs, vous allez constater, regardez le goudron, là, tout ça, c'est des voitures brûlées. On est face à la rocade, il y a un mur de briques face à nous, pas assez haut, vous entendez la rocade, ça protège pas grand-chose. Et encore, là, on est en dessous du mur, enfin, le mur est plus grand que nous. Mais si vous habitez là, au premier, là, ou au deuxième, la rocade, elle est à combien, là, d'ici? Elle est à 20 mètres, 30 mètres, hein. C'est insupportable. Tu ouvres le balcon, tu peux pas. T'as le boucan qui te rentre dans le... Donc là, le mur, comment décrire ça? Donc là, il y a une rue, un cul-de-sac qui longe le mur. Et le long du mur, il y avait un bâtiment là, qui a été enlevé suite à la ZF, l'explosion de la ZF. Et il y a un champ, enfin une petite prairie sauvage qui a pris place. Et on va vers là-bas, on va se diriger vers cette petite prairie qui fait à peu près 150 mètres de long, 100 mètres, sur 80 mètres de large à peu près. Et c'est là que j'envisage une action verte. J'ai pu travailler dans des boîtes, pour des boîtes. Et très vite, j'en ai trouvé une qui gardait les intérimaires sur plusieurs missions, qui s'enchaînaient et tout ça, non-stop. C'est-à-dire que je travaillais à l'année, quoi, en intérimaire. Ça a duré environ 3 ans. Je vais la citer, c'est les espaces verts du Languedoc. Donc c'est là que je me suis un peu frotté à l'univers du jardinage industriel, presque, j'allais dire. Puisqu'il travaille avec la ville, il travaille sur des gros trucs. Donc c'est des plantations à la chaîne. Tu plantes à la chaîne, tu dois planter en moyenne 400 plantes par jour. C'était dans leur quota, machin. On ne faisait pas toujours ça, mais le plus souvent on plantait ou on faisait des gazons. Des fois on plantait des arbres aussi, tout ça. Et donc là, j'avais une copine qui était chef, qui s'est barrée, parce qu'on lui a fait des propositions de travailler, des particuliers qui lui demandaient de venir hors boulot, faire des choses et tout. Et une fois qu'elle a vu qu'elle avait suffisamment de gens qui étaient d'accord pour l'embaucher, elle s'est mise en chèque emploi-service, elle a démissionné et elle me racontait qu'elle travaillait moins et qu'elle gagnait plus. Donc ça m'a intéressé. Et moi, là, au bout des 3 ans, je commençais à intéresser mon patron, tout ça. Il voulait me garder, tout ça, me filer un camion, une autonomie. Enfin, il me l'avait filé déjà. J'étais déjà autonome, j'avais mon camion au bout de la deuxième année, on va dire. Et la troisième année, j'étais autonome. J'étais plus sous l'autorité des chefs. C'était un peu l'armée, là-bas. La façon dont on travaillait, t'avais le chef, plus vite, t'as pas le droit de fumer la clope, il faut attendre que ce soit midi pour fumer, enfin, ou la pause à 10h. Et entre-temps, c'était du travail à la chaîne, mais dehors. Donc ça m'a bien gavé, et quand j'ai vu que ça marchait pour elle comme ça, j'ai dit, oh, ça m'intéresse. Elle m'a filé quelques clients, commencé, les moins cool, les plus, ce qui était un peu loin, machin. J'ai commencé comme ça. Et puis j'ai gardé, je suis resté comme ça jusqu'à maintenant. Quand je me suis mis à la terrasse, avant qu'il y ait ce plot là, tu vois. Et là, je me suis dit, tiens, j'avais un citronnier en pot, je me dis, tiens, là, j'aimerais bien planter un arbre. Et quand ils ont pété le bâtiment, ils sont venus mettre ces plots là, avec des poteaux provisoires pour l'éclairage de l'arbre. Ils l'ont mis juste là où je voulais planter l'arbre. Alors qu'il y avait du béton partout, ils auraient pu le mettre sur du béton. Et le peu de terre qu'il y avait, ils sont allés mettre le plot sur la terre. Donc ça m'avait énervé. Mais comme ça, c'est parce que, bon, c'était pas écrit que je voulais planter un arbre là, personne ne le savait. Et donc je l'ai planté quand même, on va aller le voir tout à l'heure. mais pas tout à fait là où je voulais. Et puis surtout que le plot, il fallait que... Enfin, il était devant moi, ça me gavait, quoi. Le plot, ils l'ont mis juste là, en béton, et ça fait 8 ans qu'il est là. C'est du provisoire durable. C'est des pots avec des hanches, tu sais, qui sont transportables, et c'est vraiment des trucs pour du provisoire. Donc, comme c'est du provisoire qui dure, ça veut dire que rien ne change. Et on paye la taxe d'habitation, ici. La dernière fois, j'avais dit, je suis taxé d'habiter là où on détaxe les entreprises. Et bien ici, la taxe d'habitation que nous fait payer, on n'en voit pas la couleur. On nous dit, oui, la taxe d'habitation, c'est plein de choses pour ceci, cela. Mais c'est notamment aussi pour la voirie, je crois, les aménagements, les trucs. Et quand tu vois que tous les quartiers alentours, après la ZF, tout ça, ils ont tout refait, les trottoirs, l'éclairage, tout, les villas, tout refait, machin, tous les trucs, tout bien pensé. Et à Tabar, on n'a rien vu. Et on a quoi? On a encore des plots provisoires depuis 8 ans, devant la gueule. Et donc c'est là l'injustice que je trouve, cette injustice de payer la taxe d'habitation quand t'es un smicard et que tu en vois même pas la couleur, tu vois, depuis 8 ans que je dois la payer et tout ça. Et bien, il n'y a rien qui a été fait, au contraire, c'est l'abandon. Donc on a l'impression d'être des citoyens de seconde catégorie. Et j'ai une phrase qui dit que le trésor doit être tout public. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde catégorie. Voilà pour le plot... Ce qui m'a donné envie de faire le jardin, donc c'est ça, c'est qu'il y avait un bout de terre juste en bas de ma terrasse qui part en triangle jusqu'à là-bas et que c'était à l'abandon. Un coin mort, quoi, un angle mort, vraiment mort. Il n'y avait que les deux lauriers là. Voilà encore des rochers. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent là parce que franchement, qu'est-ce qu'ils foutent là ces rochers pour protéger, pour empêcher quoi? En tout cas, ils sont là et là par contre. Si c'est pas une action verte, là plutôt ça sera voilà. Dans un lieu comme celui-ci, là, avec des petits rochers, là, on peut imaginer autre chose qu'une plantation. Quoi. On peut imaginer une espèce d'espace où les gens peuvent s'asseoir, enfin, se retrouver sous ce pin parasol. Là. Les rochers, ça peut être, ils peuvent être modifiés pour faire des tables, enfin, j'en sais rien. Là. Mais il y a plein de choses possibles, hein, là, ici. L'idéal, ce serait de faire un parc carrément, enfin un grand jardin avec des arbres, des endroits conviviaux, de rencontres et tout. Là, pour le coup, ça serait un lieu adéquat, bien qu'il y ait le bruit de la rocade. L'état de propreté, bon là, il y a eu du vent pendant quelques jours. Donc l'état de propreté, c'est plus la question de la propreté, c'est l'état de saleté là, dont il s'agit. Il y a des plastiques partout, des bouteilles, des pneus, des mousses, des... Sur un tiers de la surface, là, il y a une zone ici un peu plus sale qu'ailleurs. Mais c'est l'abandon complet, quoi. Il y a pas de... Ce qui est entretenu, c'est juste les abords, là, les rochers. Je me suis posé la question de l'espace et tout ça, l'espace public qu'il y a autour des lieux de vie, tout ça. Et il a été, il a pas été, on dirait qu'il a pas été pensé, ou enfin, je sais pas quoi, ou alors très mal pensé ou quoi. Moi je suis convaincu de ça de toute façon, selon comment tu vas organiser l'espace, et sur ce que je dis là, ça voudrait dire qu'il faudrait repenser toute la cité, c'est-à-dire il y a tout à refaire pratiquement. C'est tenir compte de tout ce qui fait que les gens peuvent être bien, qu'ils aient des occasions de se rencontrer, que leurs enfants jouent devant chez eux, que tu vois, il y a des choses très simples qui soient là, qui sont nécessaires à la vie sociale, à la vie en société. Et là, non, là, on a plutôt l'impression d'un parcage, plutôt que d'un lieu de vie, tu vois, comme là, l'oiseau, tout à l'heure, la cage et tout. Mais c'est ça, on est comme ça. On est dans une cage, il manque le ciel, il manque plein de choses. Je grossis un peu le truc, mais c'est pour dire que le minimum... Enfin, on n'est pas les seuls, hein. Je ne vais pas faire la victime qui se plaint là dans son trou. C'est pas la question. C'est la question que les urbanistes, les politiques, tout ça, c'est eux qui ont foutu la merde. Et il ne faut pas croire que si les choses, elles en sont là où elles sont, ça c'est dû au hasard, ou c'est dû aux gens, ou quoi que ce soit. Non, c'est la politique. Et la politique ne doit rien au hasard. Donc, eh bien, je suis passé à l'action. Comme j'étais jardinier, que je passe souvent par ma terrasse et tout, j'ai les outils, j'ai machin. J'ai eu des plantes que j'ai plantées, j'ai mis une haie, j'ai fait... Pour casser cette logique-là de s'approprier l'espace pour soi uniquement. J'ai pas fermé l'espace, j'ai laissé les chemins de circulation, ce qui fait que les gens peuvent passer dedans. Le jardin, c'est une écriture un peu. Si tu fais un jardin, si tu as l'occasion, si tu as un espace où tu peux t'exprimer en plantant des plantes ou en faisant des légumes, en faisant ce que tu veux, c'est une expression aussi. Pas orale, mais c'est une forme d'expression. Et donc ça fait, c'est lié. Quand tu vas dans un jardin, ça te parle, on le dit, ça parle, ça me parle. On l'entend pas. Enfin, on entend les oiseaux, l'eau. Ça parle, un jardin, comme un être humain peut parler. Et moi, en plus, quand je parle aussi du jardin. Dans mes poèmes, il y a du végétal. Je suis graine à fissurer le béton. Je veux du sol, de l'eau et du soleil. Je veux du ciel, du chaud et des abeilles. Je rame dans le fond d'un pot de benko, comme l'eau sucrée dans la noix de coco. Je veux de la branche, des fruits, des millefeuilles. Je veux ma chance, un lit sous les tilleuls. Je patienterai dans ce pot sans terreau. Je patienterai le temps qu'il faut. Une graine peut vivre aussi longtemps qu'un arbre. Je patienterai des milliers de barbes. Je patienterai, je serai de marbre. J'ai un beau projet, devenir un arbre.
Alors ici, il y a une haie variée d'Eleagnus, Photinia. Il y a bon, une ou deux laurières. Ouais, des Eleagnus panachés aussi, notamment. Il n'y a pas beaucoup de variétés. Il y a 3-4 variétés dans la haie. Ensuite, il y a... Je suis jardinier, hein, j'ai un diplôme de jardinier, mais là où je pêche, c'est pour les noms des plantes. Je les connais, comme on me le dit, voilà, mais j'oublie vachement. Parce que comme je disais tout à l'heure, je lis pas, ou presque pas. Donc je les connais, les plantes, mais je ne sais pas leur donner un nom. Alors je vais vous décrire leur forme. Il y a une espèce de sapin conique, pas les sapins de Noël classiques, là, c'est un truc plus, une esthétique un peu plus arrondie, plus fourni, ça fait un joli petit sapin en pointe comme un cône qui fait à peu près 2 mètres de haut. Ensuite il y a des boules, j'ai oublié le nom aussi, c'est des conifères aussi, mais en forme de boule. Ici il y a un coniacier du Japon en fleurs, des petites fleurs rouges. Il y a un rosier qui n'est pas en fleurs mais qui a ses feuilles vertes encore. Il y a d'autres petites plantations, mais il faut venir voir parce que je suis très médiocre pour décrire les plantes, leurs noms et tout ça. Et il y a un tapis de menthe là qui se voit pas parce que c'est pas la saison, mais il y a un bout là, en pointe, la pointe du jardin, c'est que de la menthe. Il y a des plantes grimpantes, c'est du chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille là qui masque le mur de ma terrasse, voilà, il n'est pas la meilleure saison, il faut venir voir ça dans 3 mois. Toute cette partie du jardin là, de là à là, oh, il y a des lavandes aussi là-bas. Là, il y a un citronnier. En bas, il y a la menthe poivrée. Donc tout ça, c'est odorant ici. Et c'est vrai que là, ça ne le fait pas trop, mais dans quelques mois, ça va être bien vert, bien fleuri, parce qu'il y a des fleurs aussi. Et l'odeur est présente, vachement présente. Donc ça, c'est le fameux arbre que j'ai planté. Et ça, c'est le plot qui est posé là depuis 8 ans.
prochaine station, Bagatelle.
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 Brigitte, j'habite à Bagatelle, je suis artiste peintre. Quartier de Bagatelle, considéré comme, j'ai entendu ça un jour dans les infos, alors ça a peut-être changé maintenant, 8e banlieue la plus pourrie de France. Avant et après, je ne sais pas, mais j'ai retenu 8e banlieue, ben, bravo. Et comment ça évolue? Énormément de destruction. Et c'était évident dans ce GPV, qui est un investissement foncier par excellence, où j'ai très peur qu'au lieu d'être moins serré, on soit très nombreux et que ça redevienne une cité dortoir. Pendant très longtemps, les gens, quand ils n'arrivent pas, économie d'à côté, économie des histoires que j'ai vécues de près parce que j'étais amie avec des gens qui ont déménagé, qui habitait juste un peu plus loin dans la rue du Lot. Là. Virginie me racontait, mais tu te rends compte, on était 11 à table et il y avait une boîte de cassoulet. Une vie que, comment dirais-je, d'une immense pauvreté. Il y a la grande tour qui est là et juste à côté, on a un immeuble qui vient de se monter. Et il y en a trois comme ça. Trois qui donnent, et devant cet immeuble, il y a une rue qui passe derrière, qui fait un Y comme ça. Mais ils l'ont fermé. Mais ils l'ont privatisé, la rue. Tant et si bien que... C'était absolument pas prévu au programme, ça. J'essaye quand même d'être un peu au courant du GPV, mais jamais on nous avait dit que carrément, ces bâtiments auraient privatisé la rue. Mais il y a plein de choses qui sont... Et maintenant, à partir du moment où ils ont une barrière très très près de l'autre immeuble, il est fortement question de détruire aussi ce bâtiment. C'était pas du tout prévu au programme non plus, ça. Alors petit à petit, comment se transforme le quartier? On reconstruit tout, on veut surtout... C'est comme si on voulait faire table rase de toute cette misère, de tous ces problèmes. On rase, on refait, voilà. Et puis on parle de mixité, mais en fait tu crois pas quand même, ça brûle ici. Hein. Derrière là, il y avait un parc, le parc Myriam. C'était un pépiniériste qui avait ça, une propriété avec une très belle demeure. Je sais parce qu'avec ma chienne, je passais sous un grillage et je suis allée trotter dans ce parc. J'aurais aimé squatter cette maison, mais bon, oh ce parc, oh, des essences rares. Ce monsieur avait fait un bassin avec des nénuphars. J'en ai encore là. À un moment donné, des Roms sont venus, on a laissé pourrir la situation. Et bien les bulldozers sont arrivés, ils ont tout démoli, ils ont tout détruit, ils ont enlevé les arbres, parce que comme ça, le terrain. Est-ce que c'est un terrain? Finalement, il y aurait un supermarché, là, ce serait pas mal, ou alors une caserne des pompiers. Mon Dieu, et c'est une terre arable, totalement arable, d'une très belle qualité. Alors comment se transforme le quartier? J'ai très peur, moi, des reconstructions maintenant. Parce que celui qu'on nous a collé là en bas, quand j'ai vu les grilles à 3,50 m de haut, dans l'appartement qui s'appelle la Closeret, d'ailleurs ça lui va très bien, elle était tellement closeret que pendant 3 mois, les gens ne pouvaient plus rentrer. Et 4 jours après la livraison, eh ben, y a un type avec sa voiture, nia, bim, il a pété la grille de 3 mètres. Je me dis, quelle volonté, à ta volonté, aussi infernale soit-elle, il y a un mec assez barjot pour te dire que les grilles, on n'en veut pas. Parce que je vivais au milieu d'une pauvreté outrancière, quoi. C'est des appartements où on sentait la misère. ces tapisseries crades. Quand j'ai enlevé la tapisserie de la salle à manger, je sais pas combien d'années ça devait faire qu'elle y était, quoi. Marron, on aurait dit un peu de la toile de jute, là c'était un papier bon marché, marron, mais ça te prend ça aussi. Et je travaille, j'ai commencé à travailler ce qu'on appelle la chromothérapie. J'ai fait de la peinture, j'ai eu quelques problèmes à un moment donné avec la languedocienne, parce que quand je l'ai fait, ça ne se faisait pas. Alors on m'a envoyé une lettre un peu insultante, et je leur ai dit que quand je partirais, ils pourraient envoyer un apprenti se faire la main pour poser le papier peint. Parce que quand j'ai détapissé, j'ai eu vraiment de très très grosses surprises. Là, j'ai enlevé 8 couches de tapisserie, c'était 13 kilos de salope, 13 kilos, parce que quand j'avais un grand sac poubelle, je mettais tout au fur et à mesure, j'ai enlevé, c'était tellement lourd que je l'ai pesé. Et quand j'ai enlevé, ça m'est arrivé deux fois, quand j'ai enlevé à côté des fenêtres, le plâtre était pourri, et l'odeur du plâtre pourri aussi, bonjour quoi. Donc j'ai refait les plâtres. C'est un détail parce que je pense que la vie, notre vie de quotidienne, elle n'est faite que de détails. Ça, c'est une recherche. C'est une recherche entre l'ordre et le chaos. C'est une recherche aussi sur la couleur. Parce que c'est un rouge basque qui vire du rouge, vrai, vraiment, jusqu'au noir, quoi, en passant par le marron foncé, le marron tête de nègre. La nuit, c'est noir, vraiment. Voilà. Mais je l'ai fait pour la beauté du toucher. Ça m'a plu comme texture. En 2007, je pense, je vois une personne du MDS qui me dit, tu sais Brigitte, ce serait bien finalement ces rochers. Voilà, grâce à lui, le projet est né. Et on a lancé l'idée. Donc ça, c'est Bagatelle. Et Bagatelle, après le passage du GPV, tous les terrains qui sont maintenant libres et en prairie, regarde le mouvement du vent, regarde là. Regarde comme c'est beau, sur la prairie. Enfin, sur l'herbe, regarde, les vagues, regarde. Et cet appartement me ravit parce qu'il y a des tas de choses que je vois d'ici que je ne pourrais jamais regarder d'en bas, c'est impossible. Donc de là, un grand territoire, un grand morceau, bordé de cailloux que nous avons peint, et le thème était le jardin. Et le jardin pour tout le monde, puisque c'était fait pour tout le monde. Et c'est là que m'est venue l'idée de jeu sur des cailloux, un jardin sans banc, hein, et des bancs en pierre. C'est bien, non? J'ai travaillé cette idée du jeu sur cailloux. Et j'ai dessiné, j'ai peint des jeux sur des cailloux que j'ai choisis, que l'on m'a amenés. Et en fait, par rapport à ça, et là où je les ai fait placer, c'était l'arrière des bâtiments. Et c'était un passage qui était vide. Seulement, avant, il y avait le centre social qui était au milieu. C'est une place où il y a plein de gosses. Et ils vont dans ce passage. Comme ce passage était vide, qui n'était pas vraiment occupé par quelque chose, c'était l'arrière des bâtiments de poubelles. Donc, j'ai désiré vraiment créer un chemin entre les deux. Et j'ai mis des cailloux sur lesquels j'ai fait des jeux puisque les enfants sont à côté. Et ils étaient en toute sécurité parce que de l'immeuble qui est en bord de terrain jusqu'à la rue du Lot, il n'y a pas de voiture. Et c'est grand, c'est largement assez grand pour que les gosses, on leur dise, bon, tu peux aller jouer à l'arrière, derrière. Mais j'ai gardé des souvenirs extraordinaires par rapport à la communauté qu'il y a tout au fond, là. une communauté rome. Je me souviens très bien de notre rencontre, ça devait être un dimanche matin ou un samedi matin. Et j'étais en train de peindre un jeu, justement, quand ils sont arrivés. Et puis, bonjour, avec un monsieur avec plein de gosses. Puis à un moment donné, je les regardais, vous êtes rome. Je ne savais pas de quelle ethnie ils étaient. Et là, ils ont été... Le monsieur, il était content parce que oui, il est rome. Et à part la suite, ses enfants ont peint avec moi. Ils se sont éclatés. Et c'est une communauté qui est très fermée. Alors, à un moment donné, c'est eux, ils m'ont dit, mais tu sais, Brigitte, nous, on a un jeu qui ressemble à celui-là, mais c'est pas comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. C'est un jeu de stratégie, je ne sais plus comment il s'appelle en France, mais effectivement, on l'a. J'ai dit d'accord. Et je leur en ai fait un juste à côté de là où ils... Voilà. Et j'ai des photos, ah oui, quand ce gros caillou là qu'il y a au milieu de l'allée, qu'on voit d'ici, quand je l'ai posé, en deux jours, ça a été... Je venais de le poser, ça faisait, enfin, on venait de le poser, ça faisait peut-être même pas une heure, un vieux monsieur arrive avec son cabas, et toc, ah là là, et le lendemain, dans l'après-midi, des jeunes arrivent pour jouer à la pétanque. J'ai vu comment c'était ici, et moi avec le mal de chez moi, ou de voir autant de par moments de laideur, oui. Et puis le désir, le phénomène même du désir, le fait de vivre ici et de se dire très bien, je peins tout, je refais cet appartement et j'aime beaucoup y vivre encore plus qu'avant. Non pas parce que c'est bien couleur, c'est pas ça. C'est travailler la couleur, travailler l'ambiance, changer le lieu, faire en sorte que ces murs disparaissent.
Alors moi je suis Raimundo. C'est un nom d'emprunt. Hein. Moi, je m'appelle Raymond Simon. Et j'étais graphiste publicitaire, 5 ans d'études. Je finis mes études. J'arrive à Toulouse, ma dernière année de formation, infographiste. Je me retrouve un peu en galère parce que ça ne me plaisait pas. J'avais beaucoup investi là-dedans. Puis en fait, je me retrouve à la rue, 2 ans, en camping à Saint-Martin-du-Touche. Et tout d'un coup, je travaillais à la rue, dans la rue Saint-Rome. Je faisais des croquis, des dessins. Et puis il y a un gars qui me dit, ouais, tu cherches où un appartement, ça. J'ai dit, bah oui, oui. Et il me dit, ouais, bah t'as qu'à aller là. Donc c'était à la Rainerie. Tu vas à telle adresse, tu demandes à voir. C'était à ce moment-là, il y avait des assistantes sociales qui étaient encore présentes sur le lieu, qui étaient avec la langue de Sienne. Tu vas là et tu demandes d'habiter rue Satie. Il y a des appartements de libre. Je fais exactement ce qu'il me dit. Je vais là, je demande à voir telle personne. Et je lui dis, voilà, je voudrais habiter, j'aime bien le Satie, j'ai un ami qui habite là, pas loin et tout ça. Puis elle me dit, bah, qu'est-ce que vous avez fait, etc. avant, qui êtes-vous? Vous savez, ici, c'est une population un peu mélangée. Je lui dis, ouais, moi, il n'y a pas de problème. Puis moi, à ce moment-là, j'avais fait l'été, l'été d'avant, j'avais travaillé à KTD Carmonde, à la Faourette. Je lui dis, moi, il n'y a pas de problème, maghrébin, je ne sais pas ce que vous parlez, là. Voilà. Tu sais quoi? Une semaine après, j'avais mon appartement là. Alors, si tu veux, déjà, le lieu... Pour moi, c'était ici, le lieu, c'était un grand bonheur. Un espace démesuré par rapport à une caravane. Du chauffage, je tourne le robinet, j'ai de l'eau, je vais me doucher, j'ai de l'eau. Alors du coup, voilà, alors, pour moi, j'étais au 13e étage, j'arrive à l'ascenseur, 13e étage, la coursive, je vois la ville, un espace très aéré, très grand. Magnifique. je suis devenu Raimundo. De Raymond, donc je crée mes petites histoires d'ombre chinoise, et puis, comment je vais m'appeler? Alors, je dis, bon, tu sais, tout le monde cherchait des trucs. Je vais prendre mon nom, je vais le trancher en deux, je vais faire Ray et Mundo. Parce que Mundo, c'est mon rêve, de voyager dans le monde. Génial. Du coup, de un que j'étais, que j'ai coupé en deux, ça en fait deux, ça fait Ray et Mundo. Et bien, de ce deux, j'ai redécouvert un 1 qui est vachement plus fort, quoi. Alors là, d'ici, tu vois, on voit... L'intérêt, c'est que tu vois jusqu'au Pêche David sur la gauche, tu vois, là, je suis est, quoi, le soleil se lève le matin là-bas. Et ensuite, tu vois, on voit jusqu'au pic, comment il s'appelle, le Canigou qui est par là, juste un petit peu plus loin. Ensuite, tu as les montagnes d'Ariège, en dessous, derrière les montagnes, tu as comment Foix, tu as une vision est-ouest, c'est une beauté, quoi. Je suis à mon bureau de travail, là, la cité, je la vois pas, je vois du bleu, là. Donc ça a été mis en place sur les années Mitterrand, tout ça, le GPV au niveau de l'Europe, hein, ça ne concerne pas que le Mirail, hein, c'est, y a beaucoup d'autres villes. Et ensuite, il a bien fallu le mettre en place, ça. Donc les municipalités bougent, mais quand même le programme, c'est pas un programme socialiste, c'est un programme d'État, on va dire. Parce qu'il faut reconstruire, ça veut dire du boulot, ça veut dire etc., réappropriation des territoires, et en même temps, on se fait beaucoup d'argent. Parce que la mairie, il ne faut pas délirer. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent du foncier qu'ils ont. Parce que ceux qu'ils ont cassés, ils ne vont pas reconstruire où ils ont cassé. Ils reconstruisent à côté. Par exemple, l'aile qu'ils ont cassée ici, c'était une aile où il y avait beaucoup d'étudiants. Alors si tu veux, quand ils parlent de mixité sociale, moi je suis désolé, l'aile qu'il y avait là, c'était à 60%, c'était des étudiants. Donc la mixité, elle y était. Il faut faire 800 mètres pour retrouver la fac. Donc ça veut dire un flux continu de personnes qui se mélangent. Même s'ils ne se parlent pas, on se rencontre, on se voit. Donc t'as l'autre que tu croises, quoi, quand même, qui est vachement important. Alors, eux, ils ont cassé ça. Et le débat qui était ici, ils disent, on a cassé, tu vois, le débat, on va dire, on va aérer. Ok, on va aérer, d'accord. Et parce qu'ils te disent, les grandes barres, c'est terminé. Tout un discours, ça, on peut vraiment le décrypter. Ils te disent, si les grandes barres, c'est fini, on le fait plus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de remettre une petite barre? Ok, vous voulez pas des grandes barres, vous en mettez une derrière. À 4 étages, comme nous le faisons maintenant, avec le truc écologique, etc., etc. Il n'y a pas de problème, c'est un très beau projet. Mais simplement, ils ne le font pas là où ils ont cassé, ils le font devant. Pourquoi? Parce que la mairie, le foncier lui appartient, derrière comme devant. Qu'est-ce que fait la mairie? Aucun constructeur ne voudra prendre derrière, parce qu'il y a moins d'usage, et c'est moins joli, c'est moins haut, tu as les grandes barres qui sont devant toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent devant. Les promoteurs ne voudront jamais investir derrière. La question que je posais moi dans les débats, c'était mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils te posent le faux débat. On déplace le débat. Ils disent oui, non, mais vous allez voir, on va faire un truc écologique, tout le monde va pouvoir, les habitants vont pouvoir s'approprier les appartements, achats, machin, tout. Mais c'est faux, c'est pas là le débat. Le débat, je m'en fiche. Ben, d'accord, c'est très bien votre histoire, mais pourquoi vous la construisez là et pas là? Le débat, il est juste là. C'est-à-dire que personne ne voudra construire derrière. Donc ce terrain-là est mort, ne vaut plus rien. Papillot, c'était celui qui avait été placé par la mairie pour orchestrer tout ça. Celui qui travaille au centre urbanistique de Toulouse, qui est connu, reconnu. Je crois qu'on le rencontre. Donc moi, j'ai mes immeubles qui sont découpés, il y a mon petit théâtre, et on voit ça, et puis il dit oui, voilà, ce qu'il faudrait, c'est... Oh, vous voyez, ces grandes barres, oui, c'est... Attends,
comment, oui, oh là là, mais oui, ce serait bien, de l'espace, oui, de l'ouverture, oui, oui, oh oui, ce serait bien, attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore?
Enfin, c'est un personnage qui cherche de mettre des mots derrière son action. Alors, mais il ne sait pas quoi, parce qu'on l'a placé là, alors donc il cherche ses mots. Il dit, ah oui, attends, anana, anana, et moi je le place, anana, ananarchiste, ah non, 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 ça c'est trop fort, ça non, voyons voir, oui, pas ça non, voilà. Et il cherche. En fait, il sait pas quoi.
Il faut s'imaginer que Papillon, là, imagine-toi bien, c'est lui qui a quand même tracé tout ça. Tu vois, parce qu'il est architecte, hein, tu sors là, tu descends, on va aller au rez-de-chaussée, tu descends. Pour la voiture, il n'y a pas de problème. Simplement, moi, je descends, je veux aller là-bas, prendre le métro. Trouve-moi un chemin. Trouve-moi un chemin que je puisse y aller. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Tu vois, tous les chemins que l'on voit, c'est les gens qui les ont tracés. Il n'avait même pas pensé qu'il y avait des gens qui habitaient là. Oui, il y a bien des voitures, il y a bien des immeubles, mais il n'y a pas un seul chemin piétonnier.
Parce que suite aux destructions, il y a beaucoup d'espace de libre. Alors, tu vois, c'est un vrai chantier, c'est Bagdad, hein. c'est les bombes. Hein. Tu vois, il faut s'imaginer, hein, 15 étages qui tombent avec, avec des gros camions qui mettent. Ces espaces, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça dure, ça fait déjà 5 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, du coup, il y a le projet d'ERV qui est une réflexion qui se fait à toutes les échelles, hein, sur se réapproprier ces territoires. Par le biais du Land Art, on propose, enfin il y a eu la proposition d'aménager ces espaces qui seront provisoires, qui peuvent durer très longtemps, et impliquer la population dans ces espaces, commencer à gérer ces espaces au travers du jardin. Jardin Land Art, pas du jardin de potager. Ce projet initie donc réapproprier ce territoire par des petits jardins.
Voilà, tiens, voilà ce qu'on voit. Alors voilà, là on est maintenant plein ouest. Le pic du Midi qui apparaît pas, mais qui est derrière ces grands immeubles de Bellefontaine, normalement, là, à peu près ici. Et là, le petit espace, ça fait donc 15 ans que j'habite ici, ce petit espace. Il n'y a jamais rien eu dessus. Il est magnifique. Hein. Au-dessus, t'as les arbres, t'as le truc de tennis, la dernière arche de Candilis que la mairie veut faire sauter. C'est terrible, hein. Ils construisent des grandes arches à Paris, mais Candilis ne veut même pas lui laisser un témoignage. Quoi. Elle est magnifique, quoi, cette arche, libre. On voit des petits jardins aussi là-bas. Sur l'arche, là, enfin à côté, on voit deux jardins. Il y a l'eau, il y a l'arrivée d'eau. J'ai pris des plantes déjà, là. Et là, j'aimerais bien, pareil, là, il y aurait quoi faire un petit jardin potager. Pas des grosses cultures, mais un peu de tomates, des herbes aromatiques. Parce que là, l'été, il fait hyper chaud, quoi. Et là, ce serait bien. Alors, c'est cet espace-là. Avant, il y a le petit jardin là qui fait. C'est pas un jardin, c'est un espace. On voit des petites buttes comme des sourcils, quoi, où tu aurais pu faire du vélo, genre petit exercice de vélo, quoi. Et du coup, moi, ça ferait. Comme je joue ici avec mon petit théâtre, tel soir, venez à telle heure, je présente mes choses là. Et du coup, ça devient un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Mais moi, je viens. Mais si moi, je viens. Je peux très bien inviter des amis à venir, bah, tu viens faire du slam, tu viens raconter de la poésie, tu viens ce que tu veux. C'est un espace ouvert. Comme j'avais fait des. J'ai mon petit théâtre, d'accord, avec lequel je travaille, je me balade beaucoup. Mais aussi j'ai fait des petites constructions en noisetier tressé. Il y a eu les jardins de demain qui a été fait à la Maourine, qui aujourd'hui a été repris par le musée des sciences naturelles. C'est un laboratoire d'expérience superbe. Alors j'avais commencé ça avec Albert Ménard, puis après j'ai refait une édition à une structure végétale comme ça en noisetier. Pas d'attache, pas de clous, rien, juste du noisetier, un tressage. Un tressage assez grand, quoi. Les mailles elles sont grandes, tu peux passer dedans. Ici, ce serait à partir de cette base de noisetiers, faire des petites structures. Ça peut être soit des structures fermées, genre comme une châtaigne, comme ça, ou juste des petites palissades sur lesquelles viendraient des plantes. Juste ça, créer un petit espace, un espace de vie, quoi, et d'échange. Parce que là, en fait, ça fait comme un petit cratère, là. Et là, t'as déjà une scène où les gens peuvent s'asseoir et toi, tu joues.